RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. Bienvenue sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
À tes côtés, le cuisinier Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Nous sommes avec un agriculteur venu de Saône-et-Loire, vous le connaissez, c'est Didier Giraud. Bonjour Didier.
Salut Alain, bonjour à la France profonde.
Et puis Barbara Lefebvre nous accompagne, l'enseignante et des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet des GG, des grandes gueules. Parlons permis de conduire, parlons compte professionnel de formation.
J'ai mon permis, je suis content. Au volant de ma petite bagnole, je suis comme un pilote en plein vol. Contravention, explication, indignation, limitation, super pollution, consommation. Boum, collision. Réparation plus addition, c'est moi de la farce, le dindon.
Bah, l'addition, le gouvernement l'a fait.
Elle est très actuelle, cette chanson de Philippe Clay.
C'est Philippe Clay, effectivement.
Ça marche encore.
Conseil, c'est pas très récent.
Là, c'est la France en noir et blanc.
Ça marche encore dans la France en couleur.
La décision du gouvernement, je pense, c'est parce qu'il a fait l'addition et qu'il décide de revenir sur l'idée de passer son permis de conduire via le compte professionnel de formation.
Et autant dire que ça agace particulièrement les auto-écoles qui déplorent une mesure d'économie qui frappe de plein fouet la France qui travaille. Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu que un quart des permis, des candidats au permis, finançaient leur permis de conduire grâce à ce compte formation, compte personnel de formation qu'on est tous obligés, quand on est salarié, d'alimenter. Ça sera terminé, cette pratique très répandue depuis 2019. Ça sera uniquement réservé aux chômeurs. Alors, bien sûr, les auto-écoles déplorent une mesure qui va leur faire du mal, puisque pour elles, c'est un enjeu capital. Hein. Ça finance. Il y a quand même 1,5 million de permis qui ont été passés en 2024 et un quart avec ce compte formation. Alors, du côté du sénateur, parce que c'est un sénateur renaissance macroniste qui portait cette mesure, il dit non, c'est pas pour faire des économies, c'est pour que les actifs utilisent leur compte personnel de formation pour autre chose, notamment pour utiliser pour des bilans de compétences, etc. Alors que les professionnels disent, le permis de conduire aujourd'hui, il faut l'avoir. Alors, sauf peut-être si tu habites dans les grandes villes, mais quand même c'est vital. Je vous rappelle que 7 Français sur 10 prennent chaque matin leur bagnole pour aller travailler.
Qu'est-ce que t'en dis, Didier ?
Écoute, moi, je vais faire mon Charles Consigny. Je pense que ce congé individuel de formation, il faut le supprimer. Et rendre du net aux salariés. Parce que dans l'idée de ce truc-là, c'est quand même que le salarié, tout au long de sa carrière, il capitalise et que ça lui permette un jour d'avoir un fonds qui lui permette de se réorienter, pour moi.
Ou se former pendant sa carrière professionnelle, oui, pour progresser aussi.
Mais pour moi, le permis de conduire est quelque chose qui doit être préalable à l'entrée au marché au travail. Et aujourd'hui, dire un compte que t'approvisionnes pendant tes premières années de carrière qui te permettent de te payer le permis de conduire, pour moi, c'est une connerie. Je pense qu'il faut trouver un moyen pour aider les jeunes à passer le permis de conduire. Parce que ça coûte cher.
Il y a plus l'armée.
Peut-être que gueule un peu aux auto-écoles aussi, parce que je pense qu'il y a moi j'ai passé le permis de conduire. Est-ce que les jeunes passent le permis de conduire aujourd'hui? Je pense qu'il y a une dérive. Alors évidemment, les auto-écoles, ils ont plus de charges. Le permis de conduire, il coûte pas la même somme, quoi.
Un prix moyen aujourd'hui, c'est 1 330 € pour 20 heures.
Mais qui fait 20 heures, quoi?
Quand même,
avec la pénurie de contrôleurs, parce que c'est aussi ça qui crée le truc, il y a une surconsommation des heures de conduite. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit.
Mais tu dis que le compte personnel de formation ne doit pas servir à ça. Donc t'es
plutôt
d'accord avec le sénateur.
Parce que pour moi, avoir le permis de conduire, c'est un préalable à entrer dans la vie active. D'ailleurs, en milieu rural, les jeunes, ils se posent pas la question. Quand ils ont maintenant 17 ans, c'est plus 18, ils se dépêchent de passer leur permis de conduire. Ce qui les rend indépendants,
oui,
ce qui
les quand leur tu vis dans une grande ville, quand tu vis dans une grande ville aujourd'hui, quand t'es jeune, t'as plus,
c'est différent.
Tu sens plus l'obligation de passer ton permis. C'est peut-être quand tu commences différent. À travailler et qu'on va te dire, bah tiens, tu vas être muté, je sais pas où, là, tu dis, merde, j'ai pas mon permis, je vais pas m'en sortir.
Tu crois pas qu'il y a une espèce d'ineptie entre dire, il faut commencer à cotiser, à avoir un salaire pour pouvoir derrière passer ton permis? Je pense qu'il faut trouver un autre système que celui-là.
Barbara.
Ce qui est quand même
rendre du net.
Croustillant quand même, c'est que le sénateur macroniste
Monsieur Xavier Iacovelli,
oui, qui dans une autre vie a essayé d'être maire de Suresnes, n'ayant pas réussi, il a réussi à rentrer en Macronie. Et c'est tout de suite, il s'excuse. Attention, hein, c'est pas pour faire des économies. Ah bah non, ce serait trop malin de faire des économies. Donc oui, effectivement, je suis assez d'accord avec Didier. De toute façon, tout ça pourquoi?
Il y a eu un détournement pour vous de
pour le bilan de compétences. Qui a déjà passé un bilan de compétences? Là, vous allez vous marrer. Le bilan de compétences, excusez-moi, une fois sur deux, c'est le truc qui sert à rien. Mm-hmm. Mais alors, vraiment à rien. Par contre, ça sert à engraisser des entreprises, des petites boîtes de consultants en machin, en bidule, en reconversion, je sais pas quoi. C'est complètement bidon, les bilans de compétences. Donc, donner des sommes astronomiques pour répondre à des questionnaires et écouter quelqu'un ou rencontrer quelqu'un qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez
donc
faire plus tard.
C'est pas à l'État et aux deniers publics.
Non, ce
de
n'est
payer.
Pas à l'État.
Attends,
mais c'est pas l'État.
C'est le salarié.
C'est nos propres cotisations.
C'est aussi que c'est devenu un dû, quoi.
Non, mais le problème, c'est que c'est on cotise. C'est l'ouvrier, l'aide à domicile.
Du coup, c'est devenu un dû.
Oui, puisqu'on t'oblige à cotiser.
Du coup, moi, je cotise à l'assurance maladie, donc je vais me mettre en maladie 30 jours par semaine.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'était pas salarié, Didier. Mais les salariés, ils ont une obligation à se former, à l'utiliser, ce compte.
Bien sûr. Mais les salariés, peut-être, ils préféreraient qu'on leur rende du net.
Ils ont une obligation à cotiser, mais ils n'ont pas une obligation à tirer.
Le formation, si. Ton manager vient te voir et te dit, il faut l'utiliser.
La vraie question là, pourquoi il a décidé de faire ça? Il a donné une raison?
Pour que ça se reporte plus sur les bilans de compétences.
Ah, d'accord. Après, moi, je pense que je suis un peu comme Didier. Je pense que le permis de conduire coûte, quand vous dites 1300,
en moyenne,
hein. J'irai facilement au-dessus de 2000 euros. Très facilement.
Plutôt.
Et c'est vrai que pour des jeunes, c'est quand même une somme très importante, et pour les foyers. Je trouve que ce compte, écoute, c'était pas idiot de financer le permis de conduire à tout le monde grâce à ce compte, parce que faire des bilans de compétences, je suis complètement d'accord avec Barbara, c'est souvent proche du ridicule.
Tu l'as passé quand, ton permis de conduire?
Moi, je l'ai passé quand j'ai commencé à travailler en apprentissage, donc je l'ai passé très tôt.
C'est toi qui l'as financé ou c'est ton patron qui te l'a financé?
Non, c'est moi qui l'ai financé, c'est moi qui me l'étais financé. Mais moi, à l'époque, c'était
les sommes 1000 francs.
C'était 1000 francs, c'était assez dérisoire.
Et moins d'heures de conduite.
Ça me représentait 2,5 salaires, moi, à l'époque. Tu vois. Moi, je trouve que c'était pas mal que ce soit financé par ce compte qui s'appelle au moins.
Et puis, juste préciser.
Ça intervient pas au bon moment.
Préciser une chose, c'est que.
Il faut avoir cotisé pour avoir le droit de tirage.
Ça correspond à un besoin, puisqu'il y a un quart des gens qui passent le permis qui l'utilisent, ce compte.
Justement, les jeunes, puisque c'est plutôt des jeunes, c'est des 25 ans, etc., qui l'utilisent, c'est souvent justement de jeunes salariés qui viennent des classes populaires. C'est des jeunes ouvriers, des aides à domicile, des intérimaires. Donc, eux, leurs parents n'ont pas pu leur payer le permis comme certains jeunes des classes moyennes ou des classes aisées, où on vous paye le permis à 17-18 ans, voire en conduite accompagnée un peu avant. Là, c'est des jeunes dont les parents n'ont pas pu payer le permis, qui attendaient leur compte formation pour se le payer eux-mêmes. Et bien là, on leur dit, attends tes 40 ans pour faire ton bilan de compétences. Voilà.
Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à réformer ça, encore une fois? Pardon.
Alors, attendez, il y a Adrien qui travaille dans une auto-école. Il est directeur d'auto-école. Il nous appelle du Loiret. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure alors?
Je suis atterré. Complètement atterré. Je ne comprends pas notre gouvernement. Pourquoi? Aujourd'hui, moi je suis un centre de formation inclusif. J'accueille des gens en situation de handicap depuis un certain nombre d'années suite à un dispositif qu'on a créé. Aujourd'hui, l'État prône l'inclusion. C'est-à-dire que les centres médicaux spécialisés veulent favoriser l'emploi des gens en situation de handicap vers le monde extérieur. Vous savez pertinemment que aller vers l'emploi, il faut de la mobilité. Nos personnes en situation de handicap aujourd'hui ont peu de ressources. Ils cotisent du CPF, 800 euros par an, qui sont destinés vraiment à une formation certifiante de l'émancipation professionnelle. Et aujourd'hui, ces gens-là ont peu de revenus. Un travailleur des ZAP en situation de handicap ont peu de revenus. Là, aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt total, une incohérence totale par rapport à la loi qui prônent l'inclusion. Je ne comprends pas. D'autant plus que pour nos personnes ordinaires ou en situation de handicap, qu'importe. Aujourd'hui, le CPF, c'est quoi ? Ce sont des cotisations de fonds publics. Enfin, c'est les employeurs qui cotisent ces droits à la formation. On ne peut pas dire qu'on tape dans les caisses de l'État. C'est faux. Pour moi, c'est faux.
Adrien, vous pensez pas que, alors ces gens en situation de handicap ou les autres d'ailleurs, si vous me dites que c'est 800 euros par an de cotisation, si on leur rendait ce pouvoir d'achat là, et si on leur mettait ces 800 euros sur du net, vous pensez pas qu'ils pourraient se payer leur permis sans avoir besoin de recours à ce congé, à cette aide là? Parce que c'est une aide en fait, hein.
C'est une aide, oui, ça peut faciliter, mais est-ce que cet argent-là va retourner en pouvoir d'achat à ces personnes-là? La question, elle est là. L'État, pour quelles raisons veulent-ils mettre un coup d'arrêt sur cette aide à la formation? Il y a quelque chose qui est incohérent là-dedans. Cette épargne d'aide à la formation peut faciliter justement des gens à l'émancipation professionnelle.
Mais vous, ça représente...
Comment ? Sur une réserve d'argent qui permet d'utiliser cet argent à bon escient. Là, aujourd'hui, en faisant ça, et ça met un coup d'arrêt surtout.
Ils veulent pas arrêter l'aide. Ils veulent arrêter simplement l'utilisation
pour le permis.
C'est un manque à gagner important pour vous en tant que directeur d'auto-école ?
Alors, si je prêche pour ma paroisse, probablement qu'un petit peu, mais je vais vous dire, le permis aujourd'hui c'est presque obligatoire pour aller pour pouvoir entrer dans la vie active.
D'accord,
les gens feront l'effort d'eux, mais on vient encore greffer le pouvoir d'achat à des familles.
Oui, mais Adrien, beaucoup disent qu'aujourd'hui. Je comprends ce que vous dites, Adrien, mais beaucoup disent que ça coûte trop cher de passer son permis, ça coûte plus cher qu'il y a quelques années. Est-ce que c'est vrai et comment vous l'expliquez?
Mais ça c'est très média, c'est très aujourd'hui le permis de conduire, aujourd'hui une auto-école, elle travaille en moyenne à 60 euros de l'heure TTC. Là où un mécanicien va travailler à 80 euros de l'heure, un artisan travaille à 80 euros de l'heure. On les pointe pas du doigt. On a des bâtiments, on a des coûts de revient qui sont incompressibles, qui font qu'aujourd'hui en marge nette sur une heure de conduite, on gagne 3 euros, monsieur. 3 euros de marge nette. Et on dit que le permis coûte cher.
Aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup d'heures. C'est-à-dire qu'il y a des forfaits et puis après, on nous demande de repasser des heures.
Mais ça, c'est faux. C'est faux.
Si jamais on loupe, il faut avoir un autre examen et on refait des heures de conduite.
Un manque d'inspecteurs parce que l'État ne met pas les choses en
place. Mais est-ce qu'on ne pousse pas dans les auto-écoles à faire trop d'heures?
Comment?
Est-ce qu'on ne nous pousse pas à faire plus d'heures? Moi, je suis d'une génération où on avait des forfaits de 20 heures, on faisait 20 heures, on avait son permis, ben basta.
Mais sauf que, mon bon monsieur, les mentalités ont changé, la circulation a changé, on n'est pas des voleurs. Ouais.
Les voitures à mon époque étaient plus compliquées à conduire que celles d'aujourd'hui.
La circulation a changé, à part les ronds-points, sinon.
La circulation a changé, les mentalités des jeunes ont changé, forcément la façon d'apprendre a changé. Vous voyez? Ouais. Mais là, on s'écarte du sujet, messieurs. On s'écarte du sujet.
Non mais parce qu'on parlait du prix du permis en fait. Pourquoi les gens utilisent ce compte personnel formation? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent.
Ils ont. Messieurs, non, on sort. Vous voulez me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. Là, on revient à l'essentiel. Bah voilà. Le prix du permis aujourd'hui, le CPF, c'est quelqu'un qui l'a cotisé. Aujourd'hui, messieurs, on va autoriser à passer son CAP de boulot.
Mais comment on faisait quand le CPF n'existait pas? On finançait bien son permis. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'armée. Beaucoup de jeunes passaient gratuitement à l'armée le permis.
Adrien, je voudrais qu'on en parle. Restez avec nous, Adrien, parce qu'on a Pascal qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Pascal qui est conducteur de bus. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Et vous avez utilisé votre CPF, en fait, pour passer votre permis?
Voilà, c'est ça. J'étais chef de culture dans une entreprise qui faisait du kiwi et qui a fermé. Donc on a eu une rupture conventionnelle et j'avais 3000 euros de points CPF et avec ça, ça m'a permis de passer mon permis D. Et aujourd'hui, je suis chauffeur de bus.
Ah oui, mais ça, c'était pour passer le permis D. Vous aviez déjà votre permis voiture.
Ah oui, j'avais mon permis voiture.
Ouais, le permis, du coup, il a utilisé pour se reformer.
Mais là, je trouve que c'est une bonne
utilisation. Et vous n'auriez pas pu vous le financer sans le CPF?
Ah ben non, entre le permis et après, il faut passer la FIMO, il faut 4500 euros.
Voilà. Donc et vous avez eu 3000 plus 1500 de votre poche.
Ben non, parce que si vous voulez, c'est le Pôle emploi qui a financé une partie
La FIMO. Pôle emploi, allez. Bah, au moins, ils ont servi à quelque chose.
Okay. Ah, là, ouais, c'était à bon escient.
Non, mais c'était une reconversion.
Et ça, ça vous a permis de vous reconvertir.
Vous avez du boulot ?
Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui.
Ah bah, chauffeur de bus, il y a ce qu'il faut.
C'est un secteur où il y a du monde.
Non, mais là, c'est efficace.
Si l'autorisation était donnée de financer le permis de conduire avec le CPF aux gens qui ont une utilité professionnelle d'avoir un permis de conduire. Oui. Parce que là, c'est vrai que peut-être
faire le tri, faire un tri,
qui est vraiment une utilité.
Mais que parce que justement, Pascal, voilà. Moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous aviez besoin d'un bilan de compétences?
Ah non, du tout.
Voilà. Bon. Bah,
c'est mieux passer le permis de conduire.
Aujourd'hui, vous auriez droit qu'au bilan de compétences, parce que Monsieur Iacovelli l'a dit. C'est ça le mieux.
Ce que dit Yves, on pourrait peut-être être un peu plus strict sur l'autorisation d'utiliser son CPF pour passer le permis de conduire.
Quand il y a une reconversion.
Est-ce qu'il y a une vraie reconversion, c'est de devenir le conducteur de bus de poids.
Quand il y a un vrai besoin du permis dans l'exercice de la fonction.
Adrien et Pascal, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci de vos exemples, tous les deux, le directeur d'auto-école et puis le conducteur de bus qui s'est reconverti grâce à ce compte professionnel. On va regarder, plus possible de passer son permis avec le CPF. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Est-ce que vous trouvez ça stupide? Oui ou non? Vous dites oui, c'est stupide à plus de 66%. À suivre dans un instant, le procès qui s'est ouvert. Procès en appel, vous savez, de quatre hommes jugés pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. Avec la défense d'un des avocats qui estime en fait... Il dit, si Samuel Paty n'avait pas stigmatisé ses élèves musulmans, ça ne lui serait pas arrivé. Quand même, la défense de l'avocat. Il est 9h20, on en parle avec nos grandes gueules en direct sur RMC, RMC.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Il est 9h25, vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, le cuisinier Yves Candebord et des nôtres, tout comme l'enseignante Barbara Lefebvre et l'agriculteur Didier Giraud. On va regarder ce qui se passe à l'ouverture du procès en appel des complices de l'assassinat de Samuel Paty.
La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire. Qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion.
Celui que vous venez d'entendre est l'avocat Maître Francis Vuhemin. Maître Francis Vuhemin est l'avocat du prédicateur Abdelkrim Sefrioui, qui est condamné déjà en première instance pour association de malfaiteurs terroristes dans l'affaire de l'assassinat terroriste islamiste de Samuel Paty.
Oui, il faut rappeler que c'est le procès en appel, qu'il y a quatre accusés qui, en première instance, ont été condamnés à des peines allant de 13 à 16 ans de réclusion criminelle. Donc là, c'est le procès en appel. Et le prédicateur islamiste Abdelkrim Sefrioui a changé d'avocat. Et là, on a bien compris que la défense avait changé. Une défense très offensive. Ce que dit Maître Vuhemin a beaucoup choqué hier lors de cette première journée d'audience, notamment les parties civiles, parce que il faut rappeler que Samuel Paty, lorsqu'il voulait montrer les caricatures de Mahomet, avait demandé justement aux élèves qui pouvaient être choqués par ces caricatures si ces élèves voulaient ne pas les voir sortir de la classe, etc. Ce n'était pas pour discriminer les musulmans, c'était au contraire une mesure plutôt d'empathie et de précaution. Et là, l'avocat, d'une façon un peu ambiguë, transforme ça en mesure de discrimination en disant, regardez, il désigne les musulmans dans la classe et pour les sortir dehors. Donc c'est ça qui a choqué, cette première journée d'audience. Et c'est une façon aussi, et c'est assez contemporain, de transformer le coupable en victime, c'est-à-dire que et la victime en coupable, c'est-à-dire que Samuel Paty, victime décapitée par un Tchétchène islamiste, se retrouve coupable d'islamophobie. C'est ce que sous-entend cet avocat.
Qu'est-ce que vous en dites, Barbara ?
Pas qu'il le sous-entend pas. Ouais. Hein. Il le dit clairement, quoi. Hein. Parce qu'il le traite pas de raciste, mais l'explication qu'il vient de nous faire, elle est complètement claire sur ce qu'il pense de Samuel Paty. Et moi, j'avais pas compris dans quel cadre ça s'était passé. Comment Samuel Paty avait pu, voulant protéger les élèves, leur dire
protéger.
Non, mais leur dire si vous êtes choqué, sortez, voilà, quoi. Enfin, à un moment donné.
Enfin, c'était pas une agression de regarder une caricature. Hein,
non, mais voilà. En tout cas, il avait mais eu cette prévention.
Mais tu vois, déjà, en soi, moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que ces gens-là ont fait appel déjà. sans parler de la plaidoirie de l'avocat ou dans quel sens il va aller défendre, mais que ces gens-là aient fait appel, déjà, rien que ça, ça me choque, quoi, tu vois. Et je pense que, à un moment donné, eh ben, la justice française est ainsi faite, mais, ouais, quand t'es avocat, tu peux tout dire, tu peux tout faire, mais il y a un minimum que la décence devrait t'imposer, et je trouve que ce monsieur, il a été au-delà de l'indécence, quoi.
Yves?
Ouais, moi, je pense que c'est, comme on dit dans le jargon du rugby, c'est une relance, de l'embute, hein. C'est une relance de l'embute. C'est un avocat qui s'est trouvé une ligne de défense. Il a trouvé cette ligne de défense et il va essayer de s'y engouffrer parce que défendre l'indéfendable, ben, mais malheureusement ou heureusement pour les gens défendus, l'avocat a trouvé une solution et essaie de tourner la Samuel Paty maintenant en...
Non, mais il y a quelque chose d'indécent.
Oui, mais c'est indécent, mais c'est les avocats, et malheureusement. Ou heureusement quand t'es défendu.
Est-ce que c'est la bonne ligne de défense?
Voilà, est-ce qu'il y a possibilité de trouver une autre ligne de défense?
C'est compliqué.
Quand t'imagines ce qui s'est passé, pour défendre ça, c'est indéfendable.
Mm-hmm. Et en fait, il veut justifier que son client, qui était donc le prédicateur, surréagit parce qu'il avait l'impression bah oui, que les élèves étaient victimes d'islamophobie.
Non, Abdelhakim Sifrioui n'était pas qu'un prédicateur, c'était aussi un agitateur militant puisqu'il était le créateur du collectif Cheikh Yassine. Donc Cheikh Yassine, c'est le fondateur du Hamas, hein, donc on voit un peu dans quelle mouvance se situe monsieur Sifrioui. Donc c'est au-delà d'un prédicateur. D'ailleurs, il a aucune compétence religieuse, ce monsieur. Il a jamais été imam ni rien du tout, hein. C'est un pur agitateur pro-terroriste islamiste, voilà. Par ailleurs, un avocat, ça plaide dans un tribunal, ça plaide en cour, ça plaide pas devant des journalistes. Donc déjà, première chose,
non mais tous.
La moindre des choses, surtout pour sortir ce genre de phrase, il peut garder ça déjà, pour l'instant, au moins pour la cour. Ça me rappelle d'ailleurs Monsieur Dupont-Moretti sur les marches qui nous expliquait que le plus grand honneur de toute sa carrière d'avocat avait été de défendre Abdelkader Merah. Je me dis, après une telle carrière, Monsieur Moretti, il avait trouvé que ça comme grand client. Bon, voilà. Il y a des gens comme ça, hein, qui sont fascinés par ce qu'en doute, ce que peut faire le pire. Je crois même que Jacques Vergès n'avait pas eu le culot de nous expliquer que vraiment, ça avait été un honneur de défendre Klaus Barbie. Je pense qu'ils n'avaient pas été jusque-là.
Il avait trouvé une
Mais c'est la nouvelle génération des avocats. Faut qu'ils viennent se pavaner de défendre les pires. Moi, je rappellerai quand même, j'espère qu'ils vont être condamnés, voire à plus même, hein, les quatre présents, notamment Monsieur Chnina, qui est le père, qui savait très bien que sa fille n'avait pas assisté au cours. Il a très vite su qu'en fait, sa fille mentait, qu'elle n'était pas en classe et que tout ce qu'elle racontait, c'était faux, puisqu'elle n'était pas en classe ce jour-là. Il a quand même continué à prétendre que sa fille y était. Donc, c'est un menteur et j'espère qu'il sera condamné à hauteur. Quant à Monsieur Sifrioui, c'est plus que 16 ans de prison qu'il mériterait. Cet avocat se comporte donc de façon... Bah, et voilà, il joue sa carte, mais personne n'est dupe. Par ailleurs, Samuel Paty a fait son travail. Les caricatures de Charlie font partie d'un cours validé par l'Éducation nationale, avec un certain cadre pour faire ce cours. Et donc, je trouve même que Samuel Paty, mon collègue, paix à sa mémoire, a été même très... oui, comme tu l'as dit, peut-être... empathique, même si moi j'y vois pas de l'empathie.
Non. Le terme de
mais moi je suis désolé, les élèves,
délicatesse, comme disait
aucun élève n'a à sortir pendant ce cours. Il regarde les caricatures, il veut pas les regarder, il baisse la tête, mais moi je ne fais pas sortir les élèves. Et surtout, en amont, on explique bien aux élèves, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que depuis 1789, en France, la religion est une opinion. Elle se respecte, elle peut s'exercer et se pratiquer en toute liberté. Mmh. On doit garantir la liberté de culte, mais il est bien dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute opinion, même religieuse. Donc la religion est une opinion, et c'est ce que j'explique toujours très longuement à mes élèves. Une opinion, on peut en changer, on peut la critiquer, on peut s'en moquer. Voilà. Donc les gens qui ont la religion susceptible, c'est des gens qui sont très fragiles dans leur foi. D'accord? Moi, je peux avoir ma religion, vous pouvez me montrer des caricatures de prophètes de ma religion, etc. Comme ça, ça va me rentrer d'une oreille, ça me sort de l'autre. Les gens qui s'estiment bafoués, etc., le délit de blasphème n'existe pas. Et monsieur, mon collègue a été très gentil de les faire sortir parce que normalement, on fait pas sortir les élèves. Ils doivent les regarder,
oui,
ces caricatures. Car ils vivent en France. S'ils sont pas contents, eh ben, j'espère pour eux qu'un jour, ils iront vivre dans un pays où on monte pas de caricatures parce que c'est un blasphème. Ils iront vivre au Pakistan, en Iran, ou je ne sais pas où.
Oui, il faut bon vivre. L'avocat est dans son rôle, mais c'est vrai qu'il choque. J'ai entendu la sœur de Samuel Paty, Gaëlle Paty, qui disait quand même, on accuse, en fait, mon frère
père d'être responsable de sa mort.
Bah, bien sûr.
C'est ça.
Mais la fille violée qui met des mini-jupes.
En l'occurrence,
comme la fille violée qui a mis des mini-jupes.
Ce qu'il fait quand il va faire ça devant les caméras, il veut attirer la lumière sur ce procès en appel et il veut qu'on en parle. Ça marche.
Oui, mais en
la
provoquant,
preuve.
En étant avec des propos qui sont jugés
qu'est-ce
abjects.
Qu'est-ce qui peut attirer les caméras aujourd'hui à part provoquer, Olivier ? Concrètement. Oui, qu'est-ce qui fait se tourner les caméras vers toi ?
Non, mais surtout aussi, peut-être que là, c'est aussi bon pour lui en termes de clientèle, parce que là, avec cette véhémence, il va avoir des nouveaux clients, parce que comme ça manque pas hein, les procès en justice pour soi-disant islamophobie, bah, ils se diront, tiens, on va prendre l'avocat de Cipri, oui, il a l'air bien.
C'est vrai qu'il avait été l'avocat, cet homme, cet avocat, a également défendu Mehdi Nemmouche, un djihadiste français qui avait été condamné à perpète.
Ah ben je vous dis, il y en a, ils se font des clientèles après. C'est comme Vergès, comme d'autres, ça vous fait une petite clientèle.
Ce qui est intéressant, c'est l'expression qu'il emploie, c'est-à-dire le tabou. Il dit, il y a un tabou dans ce dossier. On n'ose pas en parler. Voilà. Il dit, il y a la décapitation qui est l'acte le plus horrible qui soit, mais derrière la décapitation, il y a un tabou, il y a un non-dit, il y a quelque chose.
Oui, en gros, je suis en train de briser un tabou.
Voilà, je suis en train, moi, grâce à moi, vous voyez, mais je suis en train de montrer ce qu'il fait, c'est la stigmatisation. Ce monsieur... Et en fait, il continue, c'est presque, un avocat LFI aurait pu dire ça, en disant, aujourd'hui, si tu veux, c'est la stigmatisation des musulmans qui provoque ce genre de drame
et méconnaissance,
tu justifies la violence.
La méconnaissance absolue de ce qu'est l'école publique. Dans l'école publique, nous n'avons pas à connaître la religion de nos élèves. Moi, j'en ai rien à faire. Ils peuvent être musulmans, catholiques, juifs, athées, c'est pas mon problème. Leur pratique religieuse, je suis fatiguée parce que je jeûne, machin, c'est pas mon problème ça. C'est ta vie personnelle et tu as le droit de pratiquer comme tu veux, croire.
Sauf que c'est plus comme ça aujourd'hui.
Ah si, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, le c'est pas comme ça aujourd'hui, c'est comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas à en connaître de la religion de mes élèves, comme ils n'ont pas à en connaître de la mienne, ni de mes opinions politiques.
Oui, mais c'est pas, à mon avis, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quand il y a un attentat terroriste ou un terroriste, on cherche toujours à justifier l'attentat et on explique que les victimes finalement étaient un peu responsables. Pardon, mais l'attaque du 7 octobre en Israël, très vite, on nous a expliqué que oui, mais ceux qui étaient là, bon, c'est triste ce qui leur est arrivé, mais ils
c'était
payent.
Jamais que des sales colons.
Ils payent pour ce qu'Israël fait à Gaza. Et on le fait à chaque fois. Le 11 septembre 2001, je me souviens très bien, il y a tout de suite eu des gens pour nous dire oui, bah, les tours, c'est tragique, mais vous comprenez, les Américains payent ce qu'ils font dans une partie du monde.
Charlie,
on nous a dit, vous comprenez, les caricatures, quand même, ils ont été trop loin. On nous a même expliqué que les frères Kouachi, vous comprenez, une enfance difficile, etc. Il y a toujours une volonté d'excuser l'assassin,
le bourreau,
et en attaquant la victime. Et la victime, en plus, ce qui est dégueulasse, comme la victime est morte, c'est-à-dire Samuel Paty n'est plus là pour se défendre. Il n'est plus là pour expliquer ce qu'il faisait.
Je voudrais juste qu'on n'oublie jamais que si notre collègue est mort, in fine, bien sûr, c'est la responsabilité du djihadiste qui l'a tué, mais c'est aussi la responsabilité des élèves, des six élèves, qui étaient là et qui ont montré à l'assassin qui était Samuel Paty, parce que sans le rôle des élèves, ils n'auraient pas su qu'il était que jamais il y avait eu de photo, donc ils ne savaient pas qui c'était. C'est grâce aux élèves du collège qui lui ont désigné Monsieur Paty, dont un notamment qui est resté avec lui pendant plusieurs heures dehors contre quelques billets. Et ils ont été jugés également, et à mon avis pas assez sévèrement. J'espère que ces élèves vont avoir ça dans leur casier judiciaire.
Plus les mensonges des autres élèves.
Les mensonges de la fiche Nina, mais surtout l'élève qui a ensuite payé ses copains pour désigner Samuel Paty.
On a Manu, notre ami chauffeur poids lourd du côté de la Corse, qui est avec nous. Bonjour Manu.
Salut à toutes.
Manu.
On est encore en janvier.
C'est vrai.
Donc c'est la première chose que je vais vous dire, malgré cette triste histoire qui n'en finit pas d'être dégueulasse.
C'est dégueulasse ce qu'a fait l'avocat.
Écoutez, franchement, quand bien même, je disais dans l'argument sur le message que j'ai laissé, quand bien même, ça lui permet, ça justifie le droit de décapiter comme un barbare un enseignant sous les lois de la République et dans notre pays. On a des animaux en face de nous. Cet avocat, il est lamentable. Je veux dire, il a changé d'avocat, mais il n'a pas pris le meilleur. Parce que si on suit l'argument de l'avocat, donc ça se justifie. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il a le droit de trancher. Donc là, en plus, on est sous le joug de la loi de la charia maintenant en France. Je veux dire, on a pété les plombs. Je veux dire, là, je suis désolé. Après, on va dire, on en prend encore aux musulmans, etc. Mais moi, déjà, je pense que ces gens-là ne sont pas des musulmans, c'est des tarés. tout simplement. Moi, on en connaît tous, des musulmans, et ils sont pas comme ça. Donc là, en face de nous, on a des tarés. Faut arrêter d'employer le mot musulman sur ces gens-là, ça ne correspond pas. On a juste des débiles en face de nous. On a des gens dangereux qui ont fait n'importe quoi, qui ont impliqué des mineurs dans un truc dégueulasse. Donc, c'est inadmissible. Et j'espère que la justice, elle va frapper fort et que la main va pas trembler. Parce que sur un appel comme ça, avec une défense aussi bidon, avec un avocat aussi nul, mais il faut que ça. Là, va falloir calmer tout le monde.
Manu, j'ai l'impression que ce que vous dites reflète bel et bien l'opinion de ceux qui écoutent et qui réagissent en ce moment sur les réseaux. Je vous remercie, Manu. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle discussion. Bonne route, Manu. Bonne route du côté de la Corse. Est-ce que la défense de Maître Villemain est abjecte? C'est la question qu'on a posée. C'est ce que dit Manu. On va voir ce que vous en pensez. Vous dites oui à plus de 95%. Allez, dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec les grandes gueules. Il est 10h-20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Didier Giraud, Barbara Lefebvre, Camp de Bord. Attention, les vacances, n'oubliez pas les vacances Bel en Bras. On a toujours un séjour d'une valeur de 2000 euros à vous faire gagner dans les clubs et hôtels Bel en Bras. 45 destinations, la mer ou la montagne ou la campagne, c'est vous qui choisirez. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16. C'est un séjour tout compris. Premium, on s'occupe des enfants là-bas chez Bel en Bras, des activités, des repas. Vous n'aurez qu'à vous la couler douce. Le all-inclusive premium avec Bel en Bras, c'est pour vous en envoyant vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort du gagnant tout à l'heure à 11h20. Allez, on y va, on accueille Anaïs Inès Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour.
Bonjour les GG et bonjour à tous. Cette information de nos confrères du Point, Jordan Bardella demande aux élus du Rassemblement National de ne plus aller sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier?
On s'en fout pas, non?
Barbara?
On s'en fout pas.
Yves?
On s'en fout pas.
Le maintien à l'antenne de l'animateur définitivement condamné pour corruption de mineurs devient politique. Une décision contestée jusqu'en interne, hein, après la prise de parole de Sonia Mabrouk la semaine dernière en direct, puis ensuite de Pascal Praud sur X et Laurence Ferrari ce week-end. Didier, pourquoi tu t'en fous pas?
Bah, parce que je pense qu'un politique, quel qu'il soit, de quelque parti qu'il soit, il a le droit d'avoir aussi un droit de réserve. Enfin, c'est pas réservé qu'aux gens de la fonction publique, le droit de réserve. Et considérer que quelqu'un qui est condamné pour détournement de mineurs, t'as pas envie d'aller dialoguer avec lui,
corruption.
Voilà. Moi, je trouve qu'ils sont complètement dans leur droit. Et si leur parti, alors après, on peut contester le fait que c'est un chef de parti qui demande à ses troupes de pas faire, mais moi je trouve qu'un politique il a aussi son droit de réserve et voilà. Mélenchon il va pas chez tout le monde et ben Bardella il peut considérer que ces gars ils ont pas allé chez Morandini. Ça me dérange pas quoi.
Pour corruption hein.
De oui mineurs. J'ai dit détournement c'est corruption de mineurs.
Barbara.
Oui, les faits sont suffisamment graves pour que effectivement un chef de parti puisse décider qu'il ne veut plus que son nom soit assimilé à l'émission de Jean-Marc Morandini. La décision de la direction de CNews semble quand même gênée en interne. Elle est d'une certaine façon assez problématique parce que les faits contre monsieur Morandini sont des faits qui ont été réitérés sur différents moments, plusieurs années avec plusieurs jeunes. De différentes façons, des espèces de faux casting, voilà, des espèces de SMS piégeux, bref, tout ça n'est pas très reluisant. Et je pense que oui, c'est une certaine forme d'honneur de la part du Rassemblement National de ne pas vouloir mêler son nom à cette émission dans ce contexte. Et j'imagine que d'autres partis suivront à ne plus venir sur ce plateau. Après, ça poussera aussi peut-être la chaîne à se mettre au clair, parce qu'apparemment, ça dérange aussi beaucoup de gens en interne.
Ouais.
Voilà. Yves. Alors moi, Jordan Bardella, c'est pas du tout ma tasse de thé, loin de là. Mais par contre, je pense qu'il prend ses responsabilités. Moi, je trouve totalement honteux, scandaleux. Je suis outré que ce monsieur soit encore à l'antenne alors qu'il a été condamné. Je trouve que c'est vraiment.
Il n'a pas été condamné à ne plus exercer son métier.
Non, il n'a pas été condamné à exercer son métier, mais il a quand même été condamné.
En même
pour
temps,
des
on pourrait faire des appels à ne pas faire tourner Gérard Depardieu, mais on continuerait d'aller chez Morandini, tu vois. Moi, ça me choque, ça.
Alors que Gérard Depardieu n'a jamais été condamné.
Il n'a jamais été condamné. Alors, ça n'a rien à voir, quand même. Là, vous êtes géré quand même, parce que ça n'a strictement rien à voir avec Gérard Depardieu.
Ce que je veux dire, moi, c'est que ça me choque, quoi.
De quoi?
Qu'on puisse considérer que l'un, c'est normal. Boycotter Gérard Depardieu et il faudrait aller chez Morandini.
Gérard Depardieu n'a jamais été condamné.
Oui, mais c'est ce que j'ai toujours dit, moi.
Ce monsieur-là, je ne vais pas prendre.
C'est ce qu'il a été condamné en première instance.
Il a été condamné pour des faits, quand même, qui se passent, à mes yeux, qui sont gravissimes.
Oui, c'est ce que
qui sont scandaleux et qu'on continue à le laisser à l'antenne.
Je veux dire,
mal au cœur pour les parents.
Moi, il y a deux pas de mesure. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'il n'a pas été condamné à ne plus exercer son métier. Il a été condamné à ne pas être en présence de mineurs. Et c'est pareil pour les artistes. Quand il y a des personnalités publiques qui sont condamnées à des choses qui nous révulsent, qu'est-ce qu'on en fait? Bertrand Cantat n'avait pas été condamné à ne plus chanter, à ne plus monter sur scène.
Mais on
et pourtant,
pas.
Quand il monte
on
sur scène,
et
il y a eu des manifs,
coup, on a
etc.
notre libre arbitre, on a le droit de pas l'écouter. Donc,
non, mais c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Effectivement, ça serait un charcutier, un boucher, etc. Bon, on n'en parlerait pas.
C'est peut-être pas simple, mais je trouve que Bardella, mais qu'on dit, il a une paire, il assume son choix. Et je trouve ça très honorable pour une fois.
Et Depardieu a bien été condamné en première instance.
Première instance, mais
il a fait appel,
il est donc présumé innocent.
Les GG, rien ne va plus entre les anciens premiers ministres de Macron. Elisabeth Borne, députée Renaissance, critique l'évolution du parti présidé par Gabriel Attal, lequel lui a répondu ce matin sur RMC. Écoutez les deux ex-chefs du gouvernement.
J'ai pas prévu de participer à ce meeting, comme vous dites.
Vous n'avez pas prévu d'y participer.
Non, mais je pense que vous avez vu. Non, je ne crois pas que ce soit mon patron. Je crois qu'en fait, je n'ai pas de patron.
On peut être ancien premier ministre, appartenir à un parti et sécher le premier meeting de son quasi-candidat.
Enfin, vous aurez noté que c'est surtout des tables rondes avec des personnalités de la société civile. Je pense que ça me paraît clair que les prochaines échéances, ce sont les municipales et pas les élections présidentielles.
Vous savez, je suis secrétaire général de ce parti. Les militants m'ont élu pour ça. Et mon objectif, c'est d'en faire un véritable parti. C'est de tout refonder. Après, pour le reste, vous savez, il y a toujours des commentaires.
Ça vous a quand même surpris ?
Il y a toujours des commentaires et honnêtement, voilà, chacun est libre de sa parole. Mais encore une fois, l'important, c'est pas de parler de nous. L'important, c'est de parler du pays.
Bon, ça se fissure chez les macronistes, les GG. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Didier ?
Je m'en fous de la chute de l'Empire romain, moi.
Yves ?
Je m'en fous totalement.
Bon, Barbara ?
Non, ce que j'aimais, c'est tellement beau. C'est tellement beau, la conclusion de Gabriel Attal. C'est pas nous qui comptons, c'est le pays. Oh, j'adore. Surtout que c'était bien fait. On en a vraiment l'impression qu'il a fait... Je sais pas s'il fait du média training, j'espère pas, parce que sinon, il faut qu'il revoie Actor Studio. Hein. Non, mais vraiment, on se fout du monde. Alors, par contre, s'ils peuvent continuer à se fighter, à se battre entre eux, à s'entre-déchirer, moi, ça me va bien. Parce que franchement, la Macronie, si on peut l'oublier, ça va pas me faire de mal. On n'a plus envie de les voir.
Ni maintenant, ni en 2027. Donc on s'en fout de ce qu'ils font, Barbara. Gabriel Attal, tu le reverras.
Les GG. La photo dans l'avion vers Auschwitz des élus parisiens. Vous savez, ce selfie posté sur les réseaux sociaux par Jean-Luc Romero, où l'on voit aussi Anne Hidalgo, notamment, tout sourire, alors qu'ils sont en route vers les camps de la mort. Eh bien, on en reparle ce matin, car Jean-Luc Romero, l'adjoint à la mairie de Paris, a présenté ses excuses sur X hier soir. Il reconnaît que la publication était totalement maladroite de sa part. Il regrette que cela ait pu donner le sentiment d'une légèreté déplacée, hein, face à l'un des lieux les plus tragiques de notre histoire, dit-il. En revanche, il dénonce aussi les attaques homophobes dont il a fait l'objet depuis sur les réseaux, visant notamment son mari décédé depuis presque 8 ans, des internautes ayant évoqué, je cite, un sordide week-end chemsex à Auschwitz. On s'en fout ou pas? C'est pas très
c'est
drôle.
C'est l'humour noir.
Non, mais... c'est une attaque.
Ça vous a fait sourire.
Ça nous a fait rire. Là.
Ça fait un peu sourire.
La blague nous a fait rire, mais elle est pas drôle.
Voilà. Elle est homophobe surtout. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Excuse-moi, quel sexe, c'est pas homophobe.
Moi, je m'en fous.
Il y a un sous-entendu douteux.
C'est pas douteux.
C'est pas du tout. Douteux, il a même dit que son mari est mort en faisant ça.
Je m'en fous pas.
Ok, Barbara.
Non, je m'en fous pas.
Moi, d'apporter un peu de nuance, Didier. Bon, Barbara, vas-y, puisque t'es lancée.
Non, Non, je m'en fous pas parce que monsieur Romero, de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Je mets rien et puis je me victimise. C'est-à-dire que voilà, il peut pas aller jusqu'au bout, s'arrêter là, tu te tais, tu t'excuses, tu la boucles. Non, il faut qu'il se victimise. Mais moi, de toute façon, monsieur Romero, je sais aussi que c'est le grand lobbyiste de l'euthanasie. Donc moi, il me gêne aussi à ce titre-là. Alors qu'est-ce qu'il va me dire là que
ça, c'est autre
ah oui,
chose, ça.
Ah non non mais bah, tant qu'il
c'est
en
son
est,
combat.
Eh ben, moi je fais comme lui. Je fais comme lui puisque lui, au lieu de s'excuser simplement, il vient nous parler d'homophobie. Non mais c'est exactement ça nous ramène à l'affaire Samuel Paty. Blablabla. Ah islamophobie. Tu dis quelque chose. Ah homophobie. Non non.
Tu remarques bien que les responsables politiques font toujours la même chose.
Ils c'est se lui. Disent,
pardon pardon j'ai fauté mais je suis aussi victime.
Mais non mais qui a médiatisé l'affaire de mon mari est mort dans un truc de chemsex, c'est lui pour d'ailleurs lutter contre la question des drogues de synthèse dans les pratiques sexuelles d'un certain milieu. Ben non mais c'est lui qui met ça sur la table et après il vient te dire c'est de l'homophobie.
Alors
t'es toi tu racontes pas ta vie personnelle, c'est tout.
Ça justifie pas qu'on attaque là-dessus.
Non moi je m'en fous pas. C'est quand même des élus, quoi. C'est des hommes politiques. Et quand on voit qu'ils sont capables de poster.
Il y a la maire de Paris, il y a le député.
Alors, la maire de Paris, je vais la défendre. Parce qu'elle est sur la photo, certes, elle est sur dans un avion.
Oui, c'est pas elle qui poste.
C'est pas elle qui écrit, c'est l'autre idiot, là, de.
Non, on dit pas idiot, pardon.
Bon, si, on a le droit de dire. Attends, Anaïs, c'est bon. Tu vas arrêter de traiter les gens d'homophobes, on n'a pas le droit de dire ça.
C'est le monsieur qui a.
C'est bon,
c'est
le monsieur qui a même ailleurs.
C'est quand
même
possible, ça.
Alors, c'est pas un idiot, c'est le monsieur qui manque quand même de.
Torquemada, là.
Attention.
C'est pas un idiot, c'est le monsieur qui manque quand même de pertinence et d'intelligence. Voilà. Et ça me pose problème. Parce que je dis, c'est des élus, c'est des hommes politiques, et ils sont capables de faire ça. Mais c'est un gamin de 13 ans, 14 ans, qui se fait attraper la main dans la confiture.
En fait, les réseaux sociaux, il faut les interdire aussi pour certains
Didier.
Sur les gens de ce niveau-là, il faut les interdire.
Ce qui me choque dans le fond de l'histoire, c'est pas la photo, c'est la légende.
Mais voilà,
ils auraient dit en route pour un voyage à la Pologne.
En Pologne.
Oui. Déjà, ça n'aurait pas été français.
Non, mais. J'ai dit quoi? À la Pologne.
Non, mais
c'est mon cerveau qui est tout en bouillie.
Non, mais c'est le niveau de.
Non, mais en fait, ils auraient titré en route pour un voyage en Pologne. Il n'y a personne qui aurait été les embêtés là-dessus. Et vouloir faire cette photo où ils sont plutôt souriants en disant on va à Auschwitz, il y a un vrai problème de timing,
mais
t'as raison. Comment tu dis ce monsieur qui manque de discernement et d'intelligence, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est comme ça qui résume tout pour moi.
Comme si tu postais une photo de toi souriante ou souriant avant de parler d'un meurtre, par
non,
exemple.
Ou en route pour l'euthanasie, en route pour la Belgique, pour la dernière piqûre.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, la deuxième heure des grandes gueules, on va revenir sur cette femme de 90 ans, vous savez, qui a été violée par un OQTF à Nice.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.